Montréal.
Alors, ici c'est IBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
C'est IBL 101.5 au cœur de Montréal.
Et bonjour tout le monde, ici Alexandra Galil, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après un long congé pascal bien mérité pour un nouvel épisode d'Angle Droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois et CIBL pour vous parler de droit autrement. En studio avec moi aujourd'hui, ma collègue Mélanie Seyoto-Poulain pour discuter de quoi, Mélanie? Bonjour.
Bonjour, moi je vais aborder la question des droits de la nature.
On a hâte d'écouter ta chronique. Il y a aussi Marc-Antoine Bernier qui va nous parler d'immobilier.
De zones inondables, plus exactement. Je vais vous partager quelques informations concernant ces zones-là, les changements et les impacts que ça peut avoir sur votre transaction.
On a hâte d'en savoir plus, Marc-Antoine. Et notre invité du jour sera au téléphone aujourd'hui. Il s'agit de Mme Anne-Sophie Hulin, professeure adjointe à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Et on parlera du cadre législatif de l'intelligence artificielle. Angle droit, c'est parti. Mais tout de suite, les actualités de la semaine avec Jason Paré. Bonjour Jason.
Bonjour.
Alors, la première actualité, le gouvernement a déposé la semaine dernière un projet de loi afin de mettre en place un nouveau régime d'union parentale pour encadrer les droits et les obligations des conjointes et conjoints de fait avec enfants.
Oui, au Québec, 42 % des couples vivent en union libre, un record dans le monde selon le Journal de Montréal. Avec le projet de loi 56, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, souhaite modifier le Code civil en s'inspirant de l'affaire Éric contre Lola, qui a fait les manchettes dans les années 2010. Je suis pas mal convaincu, tout le monde s'en rappelle.
La cause impliquée notamment un couple pas marié qui s'est rendu en Cour suprême, on rappelle
oui,
les faits.
Ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême. La plaignante réclamait une compensation financière pour avoir mis sa carrière de côté pendant que le père s'était enrichi en travaillant. Alors, il y a quelques changements. Je vais vous donner quelques exemples de changements proposés. Premièrement, le patrimoine familial, donc on parle maison, voiture et meubles, acquis après la naissance de l'enfant, devra être séparé à part égale à la suite d'une séparation. En revanche, cela n'inclut pas l'argent accumulé dans un compte de banque, un REER ou un régime de pension. Ensuite, toujours en cas de séparation, le tribunal pourra permettre à un parent de demeurer dans la résidence familiale de façon temporaire, même si elle appartient à son ex, le temps de trouver un autre logement. Ensuite, en cas de décès, parce qu'il n'y a pas juste les séparations, en cas d'un décès de sa tendre moitié, la conjointe ou le conjoint survivant recevra automatiquement le tiers de l'héritage, à moins que des indications contraires soient inscrites dans le testament. Prenez note que l'entrée en vigueur de cette loi ne sera pas rétroactive, alors vous ne serez pas contraint par ça si vous avez déjà des enfants. Seuls les conjointes et conjoints de fait qui sont les parents d'un même enfant né ou adopté après le 30 juin 2025 seront soumis à cette loi. Pour les parents dont les enfants sont nés avant l'entrée en vigueur, par contre, c'est toujours possible de s'inscrire s'ils le souhaitent de façon volontaire en faisant la demande auprès d'un notaire. Il est également possible de se soustraire la loi en partie ou en totalité pour les autres, d'un commun accord grâce à un acte notarié.
Alors, je précise aux auditrices et auditeurs que l'ensemble de nos contenus sur educalois.qc.ca seront à même de vous résumer ce grand changement législatif.
J'imagine en faire une mise à jour.
À venir, c'est ça. Deuxième actualité, l'administration de Valérie Plante renonce à l'une de ses promesses concernant le logement, Jason.
L'administration Plante avait promis de créer un registre des loyers obligatoire pour contrer les hausses déraisonnables. Finalement, la mairesse de Montréal préfère financer la base de données de l'organisme Vivre en ville plutôt que créer son propre outil. L'annonce a été faite la semaine dernière lors du lancement du programme municipal Propriétaire responsable qui ajoute des mesures pour intensifier les inspections dans les logements montréalais, surtout sur l'insalubrité. Un total de 30 000 $ sera octroyé à Vivre en ville afin qu'il bonifie son outil créé en 2023 qui fonctionne grâce à des inscriptions, dans ce cas, volontaires. Jusqu'à maintenant, un total de 20 000 logements montréalais a été recensé sur cet outil, ce qui, pour donner une petite idée, représenterait autour de 4 % du parc locatif de la métropole. En effet, selon une étude de la Ville, plus de 493 000 ménages locataires ont été dénombrés à Montréal en 2016. Les ménages locataires sont d'ailleurs majoritaires à Montréal. Ils représentent 63 % des ménages dans la métropole. Pour expliquer sa décision de renoncer à la création d'un registre des loyers obligatoires, la mairesse Plante a indiqué qu'un tel projet aurait nécessité des modifications légales du côté de Québec, ce qui aurait pris trop de temps.
Et la troisième actualité, un nouveau livre sur la nomination des juges suscite le débat sur les réseaux sociaux pas plus tard que cette fin de semaine.
Ce week-end, et oui, tandis que beaucoup de Québécois et de Québécoises mangeaient du chocolat ce week-end à la cabane à sucre, que sais-je, d'autres, dont des juristes, débattaient de la pertinence de la thèse avancée par les auteurs du livre « La pensée des Trudeau, le Québec et le pouvoir judiciaire ». C'est un article d'Antoine Robitaille, publié dans le Journal Montréal samedi dernier, qui portait sur cet ouvrage qui a lancé le débat. Dans ce livre, le livre, lui, a été lancé le 22 mars dernier et publié par l'Institut de recherche sur le Québec. Le professeur de droit Guillaume Rousseau et le chargé de cours au HEC Sébastien Boutillier affirment que les juges nommés par Justin Trudeau depuis 2016 ont tendance à produire des jugements trudeauiste, là j'ai fait des guillemets. Les deux chercheurs ont analysé 29 jugements rendus par des juges de la Cour d'appel du Québec et de la Cour suprême nommée par le gouvernement de Justin Trudeau. Les jugements analysés portent sur les questions liées au droit linguistique, au droit individuel et au partage des compétences, alors spécifiquement pour ces jugements-là. Selon leur analyse, 17 de ces jugements sont conformes à la pensée des Trudeau, 8 sont non conformes et 4 sont neutres.
Alors, pour être certaine de bien comprendre, Jason, comment on définit la pensée des Trudeau?
Bien, selon les auteurs, cette pensée politique du père et du fils serait favorable au bilinguisme symétrique, au multiculturalisme, au droit individuel, à un État central et un pouvoir judiciaire fort, mais serait défavorable à un droit de veto constitutionnel pour le Québec et à une réforme constitutionnelle qui lui donnerait plus d'autonomie. Interrogé le 23 mars au micro de l'émission Société à l'antenne de Radio-VM, Guillaume Rousseau, qu'on connaît entre autres pour avoir défendu le mouvement laïque des Québécois pendant les contestations et la défense de la loi 21 dans son cas, a précisé que cette tendance à produire des jugements conformes à la pensée des Trudeau est surtout observable en matière de liberté individuelle et de droit linguistique, mais beaucoup moins pour les questions touchant le partage des compétences. Donc là, il y a moins de tendance trudeauiste, si on reprend l'expression. L'avocat a également indiqué que son co-auteur et lui prétendent pas que le bureau du premier ministre fait pression sur les juges et leur dicte leur jugement. En revanche, comme il y a une certaine marge lors de l'interprétation d'une loi, les juges peuvent, selon les auteurs, être influencés par leurs préférences idéologiques ou politiques. La façon de fonctionner actuellement pour les nominations serait inusitée pour une fédération, soutient Guillaume Rousseau, donnant l'exemple de l'État de New York, où les juges sont nommés par les autorités de cet État et non par Washington.
Merci beaucoup, Jason, pour les actualités de la semaine. À très bientôt au micro. Et il ne se passe pas un jour sans que d'autres médias ne parlent de l'intelligence artificielle. À notre tour aujourd'hui d'en parler à angle droit, mais toujours sous un angle juridique, avec notre invitée Anne-Sophie Hulin, professeure à l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire de recherche Justice sociale et intelligence artificielle. Bonjour Madame Hulin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'accepter cette entrevue aujourd'hui. Madame Hulin, le 5 février dernier, un rapport de 142 pages intitulé « Prêt pour l'IA » a été rendu public par le gouvernement québécois. C'est un exercice important qui montrait l'importance de créer un cadre législatif pour l'IA. Après cette recommandation, la question se pose, et je vous la pose aujourd'hui, est-ce qu'on est assez outillé pour aller de l'avant ? Madame Hulin ? Ah, je crois que nous avons un problème technique. Ça ne va pas durer. On va passer au prochain sujet et on va retrouver Madame Hulin dans quelques minutes. Et c'est parti pour le prochain sujet. On va parler des droits de la nature avec ma collègue Mélanie Sayoto-Poulain. Bonjour Mélanie.
Salut.
Alors, selon un sondage mené pendant la pandémie par le Programme des Nations Unies pour le Développement, 64% des personnes interrogées considèrent les changements climatiques comme une urgence mondiale. Dans ce contexte, accorder une personnalité juridique à certains éléments de la nature permet de mettre en place un cadre légal pour mieux protéger et préserver nos ressources naturelles. Alors, Mélanie, accorder des droits juridiques à la nature, est-ce que c'est une nouvelle idée?
Non, c'est pas une nouvelle idée. Donc, l'idée d'accorder les droits légaux aux éléments naturels comme des rivières, des arbres, ça remonte à l'article « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider » qui a été publié en 72 par le juriste et spécialiste de l'éthique environnementale Christopher D. Stone. Puis, lui a réalisé que les organismes de protection de l'environnement avaient de la difficulté de gagner devant les tribunaux. Puis, ils ne pouvaient pas prouver leur intérêt légal. Donc, pour résoudre ce problème et protéger l'environnement, il a proposé d'accorder des droits légaux aux entités naturelles avec des gardiens légaux pour protéger ces droits. Donc, de cette manière, la nature peut bénéficier de droits similaires à ceux des personnes morales, comme une compagnie, un organisme sans but lucratif, et seraient protégés de la même manière.
Alors, dis-moi, Mélanie, avons-nous des entités naturelles auxquelles des droits ont été accordés ici, au Québec?
Oui, au Québec, on a la rivière Magpie. Donc, en 2021, la municipalité régionale de comté de Mingani, qui est située dans la région de la Côte-Nord, et il y a le Conseil des Inuits d'Equanichit, qui ont adopté des résolutions qui reconnaissent à la rivière des droits juridiques, dont le droit d'intenter une action en justice. Mais ces résolutions sont comme des déclarations politiques qui pourraient entraîner des conséquences légales. Donc, en principe, ça se peut qu'ils vont pouvoir intenter une action en justice au nom de la rivière, par exemple pour arrêter un projet hydroélectrique, mais on ne sait pas encore si une telle demande a des chances de succès parce que ça n'a simplement pas été testé au tribunal.
Dis-moi, quels sont les droits accordés à la rivière Magpie et comment cela influence-t-il sa gestion?
Oui, donc les droits qui sont accordés, il y en a 9 à la rivière Magpie. Donc, il y a le droit de vivre, d'exister et de couler, le droit d'évoluer naturellement, d'être préservé et d'être protégé, le droit de maintenir sa biodiversité naturelle, pardon. Et pour la question de gestion, ça serait la responsabilité des gardiens nommés lorsque nécessaire d'entreprendre des actions légales au nom de la rivière Magpie, de demander réparation pour tout dommage subi par la rivière et aussi de recevoir une compensation pour son bien-être.
Des sanctions sont-elles prévues en cas de non-respect du statut juridique de la rivière Magpie et, ou d'autres entités naturelles?
Non, il n'y a pas de sanctions spécifiques, mais ces personnes pourront faire face à des poursuites intentées par la rivière.
Comment la communauté locale participe-t-elle à la préservation de cette rivière et à la protection de son statut juridique?
Oui, donc la résolution de la municipalité régionale de comté de Mingani prévoit que la rivière Magpie va être présentée par des gardiens nommés par la MRC de Mingani et la Première Nation des Inuits d'Equanichit, et ils auront le devoir d'agir au nom des droits et des intérêts de la rivière et de veiller à la protection.
Et existe-t-il d'autres exemples dans le monde où des éléments de la nature ont acquis un statut juridique particulier?
Oui, donc il y a la Nouvelle-Zélande qui a accordé la personnalité juridique à la forêt Teurewera en 2014. Il y a aussi la rivière Whanganui et le mont Taranaki en 2017. Tandis que l'Équateur, par exemple, est devenu le premier pays à reconnaître des droits à la nature dans sa constitution. Puis en Inde, le tribunal a accordé la personnalité juridique aux rivières Gange et Yamuna. Donc, pour conclure le tout, la personnalisation juridique, ça consiste vraiment à accorder un statut juridique à un élément naturel, comme une rivière, ce qui pourrait permettre de protéger l'ensemble de son écosystème. Et pour ce qui est à venir, au Canada, il y a présentement le projet de loi sur la capacité et la protection du fleuve Saint-Laurent qui a été déposé et lu pour la première, mais aussi la dernière fois en mai 2022. Mais son état d'avancement est noté, puis ça, je cite du site, comme ne faisant pas partie de l'ordre de priorité. Donc, il reste à voir ce qui en découlera.
Merci beaucoup, Mélanie, pour cet éclairage fort intéressant. On te retrouve très bientôt au micro.
Oui.
Alors, je rappelle aux auditrices et auditeurs qu'Angle Droit est une émission en direct. Donc, des fois, les problèmes techniques quand on a des entrevues par téléphone peuvent arriver. On retrouve Madame Anne-Sophie Hulin, professeure à l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire de recherche justice sociale et intelligence artificielle. Bonjour, Madame Hulin.
Bonjour, rebonjour.
Rebonjour. Est-ce que on s'entend bien? Tout va bien?
Tout va bien de mon côté.
Alors, je répète la première question. Hein. Donc, le 5 février, un rapport de 142 pages intitulé « Prêt pour l'IA » a été rendu public par le gouvernement québécois. C'était un exercice important pour montrer l'importance d'un cadre législatif pour l'IA. Dites-moi, est-ce qu'on est assez outillé pour aller de l'avant?
C'est une grande question, mais déjà, ce rapport faisait un état des lieux de d'où est-ce qu'on part. Et d'où est-ce qu'on part, c'est, il y a déjà du droit qui s'applique à l'intelligence artificielle, mais ce qui est apparu de manière assez commune dans les différents chantiers, c'est que le droit n'est pas encore suffisamment outillé, tout comme la société, pour faire face à l'enjeu de l'intelligence artificielle. Et si l'éthique a pu apporter différents éléments pour aller dans une réception responsable de l'intelligence artificielle, peut-être qu'aujourd'hui, on est à un moment où il faut plus de réglementation et plus de mordant pour mieux appréhender les différents enjeux éthiques, sociétaux qui touchent l'intelligence artificielle.
Quand vous dites plus de mordant, ça veut dire quoi exactement?
Plus de mordant, c'est la question, est-ce qu'il faut ou pas une loi au Québec qui vienne définir les conditions dans lesquelles les solutions d'intelligence artificielle peuvent être mises sur le marché, être utilisées par par différents acteurs. Et aussi, qu'est-ce qu'on veut prévenir, qu'est-ce qu'on veut ne pas avoir dans notre société vis-à-vis de l'intelligence artificielle.
À partir de quand exactement est-ce qu'on a estimé qu'il y avait besoin d'un encadrement législatif et qu'il était comme urgent? Quel a été le déclic?
Le déclic est vraiment arrivé, je pense, avec l'arrivée de ChatGPT sur le marché, parce que c'est pas tant ChatGPT qui a été une révolution technologique, bien que ça fasse des prouesses qui étaient jusque-là un peu inégalées, mais c'est plutôt l'arrivée massive, le fait que l'intelligence artificielle est accessible à toute la société, sans restriction, je pourrais dire, de secteur, ni même restriction de point de vue d'agilité ou de littératie, c'était comme une vague de marée de l'intelligence artificielle. Et avec ChatGPT et cet accès gratuit, notamment à des IA à très fort potentiel, on s'est rendu compte que certains enjeux relatifs à la vie privée, la sécurité des données, le plagiat, le droit d'auteur, les biais des discriminations étaient comme décuplés. Et c'est là où le sentiment d'urgence s'est fait ressentir, parce que quand ChatGPT est arrivé, c'était une première version, la troisième version, puis 6 mois après, une version encore plus performante arrivée, et là, on a fait face à une course sans restriction à l'innovation et avec des enjeux sociétaux qui n'arrêtaient pas de s'accentuer eux aussi dans la foulée.
Alors, rapide tour d'horizon, la loi C-27 est actuellement en débat à Ottawa. On fait plusieurs allers-retours et on ne trouve pas ou très peu d'accord. Parmi les enjeux soulevés, vous l'avez nommé tantôt, on parlait d'éthique. Je vous pose la question, qu'est-ce qui coince exactement d'un point de vue éthique?
Projet de loi C-27, il est difficile, mais il exacerbe en fait la tension principale que l'on a au Québec ou au Canada. C'est qu'on voit la réglementation de l'intelligence artificielle comme un frein à l'innovation. Et donc, dans ce débat protection, on oppose l'innovation. Et là, le Canada un peu, et le Québec aussi, a un peu du mal à se situer sur la marche à suivre. En termes d'enjeux sociaux, il faut comprendre que dans l'intelligence artificielle, il y a des intelligences artificielles qui n'ont pas besoin peut-être d'être réglementées parce qu'elles présentent peut-être pas un risque très élevé. C'est par exemple des IA qui vont filtrer la qualité de certaines patates, qui vont faire de la prédiction d'achalandage pour un meilleur suivi de certains magasins, par exemple. Mais on a des IA qui vont avoir un impact très important du point de vue de la santé des patients, du point de vue de l'éducation, ou encore du point de vue de l'atteinte à la vie privée ou de la surveillance du point de vue de la société. Et c'est ces IA-là qu'il faut aujourd'hui peut-être se positionner, pour lesquelles l'éthique ne peut pas être suffisante, parce que l'éthique est volontaire, mais elle ne pose pas de normes contraignantes. Et aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de normes contraignantes.
Dans ces normes contraignantes, ce serait quoi exactement, à quoi vous pensez quand vous dites ça?
Des normes contraignantes, ben, ce serait déjà clarifier les enjeux de responsabilité quand l'utilisation d'intelligence artificielle va générer un dommage à une personne. C'est d'avoir des règles de responsabilité qui soient adaptées au fonctionnement de l'intelligence artificielle. Or, aujourd'hui, c'est très difficile d'appliquer le droit de la responsabilité à des IA parce que les IA vont fonctionner pour un grand nombre d'entre elles comme des boîtes noires. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne, puis surtout, il faut pouvoir accéder au moteur, savoir comment ça fonctionne. Et pour ça, ben, ça soulève des enjeux de preuve pour lesquels notre droit est actuellement très mal outillé. D'autres séries d'enjeux, c'est par exemple, est-ce qu'on a envie que l'intelligence artificielle intègre l'ensemble du domaine, l'ensemble de l'administration? Est-ce qu'on a envie que ça détermine l'allocation des prêts? Est-ce qu'on a envie que ça détermine complètement aussi la surveillance, l'intégration dans la police sans qu'il y ait un contrôle du point de vue des droits humains? Est-ce que ça en veut? Et pour ça, ben, ça va supposer un certain nombre d'obligations en amont qui vont définir si jamais on accepte que ce soit intégré, ben, que ce soit dans des conditions qui vont être respectueuses des différents droits humains. Donc on va poser des obligations, notamment des obligations de transparence ou des obligations en amont de mise en marché.
Alors, on comprend hein, que les obligations de transparence et de responsabilité sont parmi les points les plus importants pour encadrer l'utilisation de l'IA. Est-ce qu'il y a d'autres points qui semblent importants pour que ce cadre juridique soit clair?
Pour qu'il soit clair, il faut déjà que la société soit capable de comprendre les enjeux relatifs à l'intelligence artificielle. Et ça, il y a un effort d'éducation qui est très important à tous les niveaux de la société. D'une part, pour qu'il n'y ait pas une fracture au sein de la société entre ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, ceux qui ne l'utilisent pas. Et ça va être très important que ceux qui l'utilisent comprennent comment les IA fonctionnent et donc quels sont les risques que l'utilisation de l'IA va pouvoir générer. Donc, ça va devoir avoir une éducation à la sensibilité sur les données qui vont être utilisées pour entraîner les intelligences artificielles, avoir une sensibilité sur est-ce que c'est nécessaire ou pas que j'ai recours à l'utilisation artificielle pour n'importe quelle tâche, notamment parce qu'on sait les IA génératives ont un impact carbone qui est de plus en plus majeur. Donc, développer, si vous voulez, une éducation à l'intelligence artificielle pour véritablement tempérer ses effets négatifs et avoir un usage responsable.
Merci beaucoup, Madame Mulin. Je rappelle que vous êtes professeure à l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire de recherche Justice sociale et Intelligence artificielle. Cet éclairage était pertinent pour l'émission Angle droit. À très bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour.
Alors, notre chronique aujourd'hui, tu l'avais dit tantôt, on va parler des zones inondables et des impacts hein, que cela peut avoir sur les transactions. Dis-moi, avant toute chose, on va vulgariser les choses. C'est quoi une zone inondable?
Alors, c'est une surface qui est à risque d'être submergée par un lac ou un cours d'eau. Donc, c'est des zones qui sont délimitées et chaque municipalité et MRC possèdent des cartes de ces zones inondables-là sur leur territoire. Pour chaque transaction, comme c'est quelque chose de majeur, les risques d'inondation, bien, on va vérifier si l'immeuble se situe en zone inondable. Mais il y avait tout un système qui avait été établi auparavant, mais en 2024, le gouvernement vient changer les règles, va modifier la cartographie et le système d'évaluation des zones inondables.
Je ne suis pas certaine de comprendre pourquoi ça s'est passé de même.
Bien, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'inondations dramatiques dans les dernières années. On peut penser à Sainte-Marthe-sur-le-Lac en 2019, Baie-Saint-Paul en 2023, pour ne nommer que celle-là. Alors, c'est un phénomène qui va croissant et il faut s'adapter à la situation. Beaucoup d'inondations, il faut changer les règles parce qu'il y avait des lacunes à ce niveau-là. La première chose qu'on va modifier, c'est le système de notation des zones. L'ancien système, on fonctionnait avec des zones inondables, avec des codes, des cotes 0-20 ans et 0-100 ans. Mm-hmm. C'était pas toujours clair pour les acheteurs et les vendeurs. On pouvait penser que les zones 0-20 ans, ça veut dire qu'il va y avoir une inondation aux 20 ans. je vais gérer, puis zéro s'entend encore plus, une inondation au 100 ans, ça va. Alors, c'est pas, alors que c'est pas du tout ça que ça voulait dire. Ça voulait dire, pour une zone 0-20 ans, il y a 5 % de chances d'inondation annuelle et 1 % de chances dans les zones 0-100 ans. Maintenant, on annule tout ça, le gouvernement va établir un nouveau système de notation, ça va être, il y a un risque faible, modéré ou élevé. Donc, c'est beaucoup plus clair.
Un petit peu plus clair, effectivement. Ouais. Alors, on change de système, mais on change les cartes aussi?
Oui, parce que les cartes de zones inondables, c'était pas toujours très précis. Parfois, ces cartes-là étaient vieilles, elles étaient dépassées, les contours étaient imprécis et approximatifs, parce que chaque MRC et chaque municipalité avait sa façon de faire. Maintenant, le gouvernement va dire, bon, ben, on vous laisse plus le choix, il va y avoir une méthode, une seule façon de délimiter les zones et de noter les risques. Ça va dire qu'il va y avoir une refonte complète de la cartographie. Mais ça veut aussi dire que des anciens propriétaires, ben des propriétaires que la municipalité disait « Non, non, vous n'êtes pas en zone inondable. » Maintenant, avec le projet du gouvernement, peut-être qu'à leur grande surprise, ils vont se retrouver en zone inondable alors qu'ils ne l'étaient pas 30 ans auparavant.
OK. Et quel sera l'impact hein, pour ces propriétaires qui se retrouveront en zone inondable?
Ah, mais c'est très important. Imagine, t'es propriétaire d'une maison sur le bord de l'eau. Mm-hmm. T'as jamais eu de problème, jamais d'inondation. Et d'un coup sec, paf, ta maison se fait zoner en zone inondable. Et le problème avec tout ça, c'est avec toutes les dernières inondations qu'il y a eu, c'est encore frais dans la mémoire des gens, les assurances deviennent de plus en plus frileuses d'assurer les zones inondables. Certaines carrément refusent de les couvrir, ça veut dire ton assurance avec laquelle tu as souscrit depuis des années, d'un coup sec, tu as dit « ben non, désolé, trouve-toi quelqu'un d'autre, nous on n'assure plus ça ». Et surtout, ce sera beaucoup plus difficile de revendre sa propriété maintenant qu'elle est en zone inondable.
Alors, il doit être difficile hein, de trouver une personne qui sera prête à acheter une propriété en zone inondable, non?
Ben justement, ça nous fait tous rêver une belle propriété au bord de l'eau, ben finalement, ça fait moins rêver maintenant. Avec les anciennes cotes, les acheteurs pouvaient se dire « ah bon, une inondation aux 20 ans, je vais savoir gérer ». Mais maintenant que tu te fais dire « Ah, ben la zone inondable, il y a un risque élevé, qui va vouloir prendre ce risque-là? » Et même si vous êtes partant et partante en vous disant « Ah, ben moi, j'ai une somme pomme, je vais me construire des bonnes digues », c'est possible que même avec de la bonne volonté, ça ne fonctionne pas parce que les assurances ne couvriront pas et peut-être même que la banque va refuser de vous prêter parce que vous achetez une propriété en zone inondable.
Changement climatique avec les inondations, hein, on dit qu'elles sont rendues plus graves qu'avant et peut-être plus fréquentes désormais, non?
Oui, ça devient de plus en plus fréquent. Il y avait eu des cas d'inondation auparavant. Mais maintenant, ça va en s'accentuant. Juste pour donner quelques chiffres, au Québec, c'est 340 000 propriétés qui sont en zone inondable. Le Bureau d'assurance du Canada dit que ça a coûté 280 millions de dollars aux assurances, 390 millions pour les pertes non assurées au gouvernement du Québec.
Merci beaucoup, Marc-Antoine. On en saura plus, j'imagine, dans une actualité qui sera publiée sur le site educalois.qc.ca. On va publier des informations plus complètes à ce sujet pour les auditeurs. C'est déjà la fin d'Angle Droit. Si vous avez des questions, si vous souhaitez nous proposer des sujets, écrivez-nous à angledroit@educalois.qc.ca. Merci à Geoffrey Pro pour la mise en onde ainsi qu'à Jason Paré pour la réalisation. Ici Alexandra Guélil, bonne journée à l'antenne de CIBL 101.5.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Écho Montréal. Entrevue exclusive avec Paul Saint-Pierre Plamondon, les gagnants du concours Le français, une langue qu'on aime, un système de corruption syndicale et en édito, une volte-face politicienne.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133.
Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h.
Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache ta toune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache ta toune, jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h.
CIBL.
L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.